direct de la Maison de la Radio avec Benjamin Hu à la réalisation, Nasser Moussaoui, Bruno Barada, Aurien Delacroix, Henri Leblanc à la programmation, Laura Dutèche-Pérez, Philomène Villard et Marceau Vassy à la préparation. Bonjour à tous. 12h55 dans la tempête virale avec le philosophe slovène Slavoj Žižek, penseur postmoderne, spécialiste de Lacan, Hegel et de pop culture. Il nous parlera de son sentiment de l'époque aujourd'hui et de son monde d'après. Comment l'imagine-t-il? Mais d'abord, les nouvelles héroïnes de Manara, née sous l'étoile de Genus, sa première BD en 69. Il partage l'affiche avec son ami Hugo Pratt pour L'été indien et El Gaucho, voyage en deux albums avec Fellini, puis se lance avec Jodorowsky au scénario dans la série Borgia, sans oublier Le Déclic, l'un de ses albums phares. Pendant le confinement et le pic épidémique, il a croqué les femmes et il nous en parle aujourd'hui. L'Italien Milo Manara est notre invité.
Olivia Jesbert.
Et bonjour Milo Manara.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Je l'évoquais un peu vite, un peu rapidement, un peu tassé, mais pendant le confinement et le pic épidémique, vous avez ressorti vos crayons pour croquer des femmes sans qui rien ne se serait passé comme ça s'est passé. Vos nouvelles héroïnes, elles sont infirmières, elles sont caissières, elles sont médecins. Une vingtaine de ces aquarelles seront mises en vente à partir du 9 juin jusqu'au 24 juin et tous les bénéfices de la vente seront reversés à des hôpitaux. Vous êtes un dessinateur érotique et désormais un dessinateur héroïque puisque vous les rendez visibles, ces femmes. Rétrospectivement, Milo Manara, quel regard vous portez sur les semaines qui viennent de s'écouler?
Bon, oui, ce n'est pas le dessinateur que c'est héroïque, c'est plutôt les femmes qui sont dessinées qui sont héroïques. Oui, ce sont des petites pensées. C'est la manière de dire, la manière d'un dessinateur de dire « je pense à toi ». Un grand merci et un petit bon courage, c'est tout. J'ai pensé à tous les personnes, en particulier les femmes, oui, qui ont affronté un virus presque inconnu. Parce que les premiers jours en Italie, c'était vraiment quelque chose de dramatique, mais aussi d'épique, dans quelque manière. Parce qu'ils se sont trouvés à affronter un virus inconnu sans les protections. Et donc, en Italie, ils sont plus que 160 médecins décédés, morts, à cause du virus. Et plus que 60 infirmières. Donc, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et moi, j'ai trouvé juste la force, comme c'était presque impossible de travailler, de trouver la concentration, la sérénité pour dessiner. Et donc, c'était les premiers jours de mars, du mois de mars. Et comme normalement, les 8 mars, c'est la
journée internationale des droits des femmes.
Oui, normalement, je dessine toujours un petit hommage à les personnes qui sont tellement importantes dans mon travail en général. Et donc, cette année, j'ai commencé à dessiner une femme, une infirmière, en face à un virus comme ça, que c'était quelque chose d'alien. C'était vraiment inconnu. Donc, la difficulté qu'ils ont trouvée, et on voyait que tous les hôpitaux s'étaient remplis de plus en plus de malades, des malades très graves, des décédés aussi. Et on est arrivé même à enterrer les décédés avec des camions de l'armée. Donc, c'était vraiment quelque chose de terrible, une catastrophe. Et donc, moi, j'ai trouvé l'envie de dessiner en dessinant toutes les personnes qui, malgré tout, ont continué à faire leur devoir, et même s'ils savaient très bien les risques, les dangers. qu'il courait, parce que tout ça qu'on savait, c'était que les virus, c'était quand même létal. Ou pouvait être létal. Hein. Beaucoup de cas, il était létal. Donc, il y avait aussi des autres personnes, comme les adeptes à le nettoyage, soit de l'hôpital, soit de la ville en général, et aussi toute la chaîne de la nourriture, de la production, la distribution, la grande distribution, et juste à la vente en détail. Et donc, il y avait beaucoup de personnes qui malgré tout, ont continué à travailler, à faire son propre devoir pour nous, pour tout nous.
Vous avez dessiné toutes ces femmes, Milo Manara, et vous dites, elles étaient et elles sont encore aujourd'hui à la fois infirmières, médecins, soignantes, caissières, femmes de ménage, mais aussi femmes de l'ordre, toutes avec leurs uniformes respectifs et leurs couleurs et leurs combats. Vous avez notamment dessiné cette infirmière en vert, debout contre un mur, et on la voit petit à petit s'effondrer, perdre courage, le visage dans ses mains, puis relever la tête, se redresser, repartir au combat, affronter un virus gigantesque tel que vous le retranscrivez sur ce dessin. Depuis toujours d'ailleurs, vos héroïnes, elles sont en prise avec des situations compliquées, hein, ou avec des réalités qui les dépassent. Là, elles sont en première ligne, vos héroïnes, et elles sont belles, comme toujours. Elles sont sensuelles, elles sont déterminées telles qu'on peut les voir. Pourquoi? Vous aviez aussi envie, Milo Manara, dans cette période très sombre, de remettre un peu de lumière avec ces héroïnes.
Oui, ce sont les héroïnes qui ont mis la lumière, ce n'est pas moi. Mais quand même, merci d'avoir décrit les petites vidéos que j'ai faites comme ça, parfaitement. Et c'était une petite vidéo avec la musique de Handel. Et c'était vraiment un besoin que j'ai eu de représenter soit l'héroïsme, oui, le courage, etc., mais aussi les moments de découragement. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de défaillances, quoi. Mais ils l'ont récupéré toujours. C'était vraiment quelque chose de tellement passionnant, tellement émouvant aussi de voir la faiblesse, la soi-disant faiblesse de la femme qui devient vraiment la force, le courage. C'était formidable tout ça.
Est-ce que l'Italie se relève aujourd'hui, tout doucement, de cette épidémie qui l'a durement frappée, surtout le nord du pays, vous l'évoquiez, Milo Manara? Est-ce que, comme cette infirmière, le pays est en train de se relever?
Si. Oui, c'est vrai que c'est surtout le nord d'Italie qui a été frappé, heureusement, parce que tout le monde disait que le sud d'Italie, il n'y avait pas la tressature, les choses nécessaires pour affronter une épidémie comme ça, mais je crois qu'au contraire, ils l'ont bien affronté, mieux que le nord. Et donc, oui, maintenant, on est en train d'ouvrir tout, comment dire, le carrousel s'est reparti. Et aussi, la pollution s'est repartie, et aussi les accidents, les bruits et tout ça. Donc, on est en train de sortir, oui.
Et est-ce que l'inspiration pour vous est repartie aussi? Vous disiez au début de cette période de confinement, vous n'aviez plus envie de dessiner, en tout cas les projets sur lesquels vous étiez, vous les avez suspendus. Est-ce qu'avec le retour de la vie, c'est aussi le retour de l'envie de redessiner, de recréer, de reparler d'autres choses pour vous, Milo Manara?
Oui, bien sûr, oui. J'ai déjà commencé, oui. Même parce que j'avais des contrats, des choses comme ça, de respecter avec des éditeurs américains et tout. Donc, oui, j'étais obligé à repartir, mais quand même, maintenant, c'est vraiment tout à fait différent, la situation au niveau psychologique. Et donc, oui, l'angoisse, c'est plutôt. Si on pense à des autres pays comme le Brésil, ou pour des autres choses, pour tout ça qui est en train de passer dans les États-Unis, par exemple. Mais quand même, oui, je suis reparti, oui, j'ai recommencé à dessiner des héroïnes différentes. Mais là, pour moi, comme pour beaucoup d'autres peintres, la femme est aussi une sorte de paradigme pour représenter quand même tout la vie. Hein, voilà. Et donc, j'ai continué à décliner même la catastrophe de coronavirus. J'ai continué à décliner à féminin, comme ça. Mais bien sûr que les femmes que j'ai dessinées, les médecins, les infirmières, sont les symboles de toute la catégorie, bien sûr.
Vous aimez dessiner les femmes, vous aimez dessiner leur corps, leur forme, leur courbe, Milo Manara, mais aussi évidemment leur visage. Les dessiner masqués, comme vous l'avez fait durant cette période, ça a dû être un exercice particulier pour vous. Qu'est-ce qui a changé dans votre dessin précisément? Il a fallu suggérer de nouveaux éléments à travers le regard. Vous avez donné plus d'importance qu'habituellement aux yeux de vos femmes, de vos héroïnes?
Non, 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 je crois que toute la séduction de femmes que je dessine, bien sûr, ça passe par le regard. Je l'ai toujours pensé, même quand je le dessine déshabillé, mais c'est quand même le regard qui fait partir la séduction. Donc, je ne trouvais pas de différence. Quand je l'ai dessiné tout habillé avec le masque et tout, mais les yeux sont la partie fondamentale pour établir un dialogue avec le lecteur, mais même dans la vie. Le regard des femmes, je crois que c'est une des merveilles de l'univers et je crois qu'il n'y a pas des hommes qui peuvent regarder comme ça, comme ils regardent une femme. Donc, les yeux, le regard d'une femme, c'est une chose tout à fait de femme.
La vie passe à travers le regard et toute narration repose pour vous, Milo Manara, sur deux pieds, deux colonnes, Eros et Thanatos, les fameux. Vous l'avez déjà affirmé, avec cette épidémie, on a eu plutôt beaucoup de Thanatos, hein, la mort, la maladie, et on le sent aussi qu'à travers vos dessins, c'est pour ça que je parlais d'héroïne lumineuse aussi tout à l'heure, vous avez ressenti le besoin de remettre de la sensualité, du désir et donc de la vie pour rendre ce récit plus acceptable, plus supportable, même dans des périodes de drame collectif comme on a vécu. Il faut toujours aussi se tourner vers l'éros. Il ne faut pas abandonner cette partie-là de nous.
Ah, vous l'avez dit d'une façon qui moi, je n'aurais jamais pu le dire comme vous. C'est parfait. Ce que vous avez dit, c'est vraiment parfait.
On signe, ok, on arrête là. Alors on va écouter, pour continuer, la voix du dessinateur Tommy Ungerer qui nous a quittés et qui parle de ce qu'est pour lui à la fois la sensualité et l'érotisme.
Vous savez, à fur et à mesure qu'on met en scène ces fantaisies, on se débarrasse aussi dans un sens de l'aspect obsessionnel. C'est-à-dire, bon, ben, on l'a fait, je l'ai essayé, et puis bon, c'est quand même pas mal. Et puis c'est l'aventure, c'est aussi l'aventure, c'est-à-dire que vraiment chaque personne a quelque chose que l'autre n'a pas. Dans le fond, chaque être humain est complémentaire, et dans la sexualité, c'est un peu la même chose. Mais j'aime bien mettre les choses en scène. Alors il y a aussi l'improvisation. Mais je pense que l'érotisme, c'est vraiment ce qui nous différencie des animaux, c'est quand même l'érotisme. Et là aussi, l'érotisme, c'est tout à fait relatif, n'est-ce pas? Quand on voit de nos jours une Vénus de Milo, ce n'est pas exactement érotique. De toute façon, on lui a coupé les bras pour l'empêcher de se masturber. Enfin bon.
Voilà, l'Alsacien Tommy Ungerer. Qu'est-ce que c'est pour vous l'érotisme, Milo Manara?
Alors, c'est très difficile de concentrer en deux mots, Mais alors, d'une façon, on peut dire, scientifique, l'érotisme, c'est l'élaboration culturelle du sexe. C'est ça, l'érotisme. Mais je crois que en vérité, l'érotisme, c'est l'énergie vitale. C'est l'énergie qui fait fleurir les arbres tous les printemps. C'est la vie contre la mort, justement. C'est Eros contre Thanatos, justement. C'est ça. L'érotisme, c'est tout. C'est la joie de vivre. Donc, oui, c'est comme la cuisine, c'est l'élaboration culturelle de la nourriture. L'érotisme, c'est l'élaboration culturelle du sexe. Voilà. Et donc, tout ça qui concerne l'érotisme, c'est un phénomène culturel, quand même. Et c'est pour ça que les regards, c'est comme ça important, parce que les regards, c'est l'intelligence.
C'est un phénomène culturel, dites-vous, mais aussi universel. Est-ce à dire quand même que chaque pays, chaque culture vit son érotisme ou a une manière de le raconter très singulière? Milo Manara, est-ce que vous m'entendez?
Oui,
Oui, est-ce que vous m'avez
oui,
entendu?
oui,
Oui,
oui.
sur cette
Non,
distinction.
oui, j'ai eu une minute de blackout, je n'ai pas entendu.
Et on est effectivement connectés virtuellement ensemble. Vous n'êtes pas avec nous, malheureusement, pour l'instant dans ce studio. Vous êtes avec nous, heureusement, par contre, en direct d'Italie, par tous les moyens merveilleusement modernes de la technique. Et parfois, ça coupe et on se retrouve. Je vous demandais simplement, vous évoquiez l'aspect culturel de l'érotisme aussi pour vous, la manière dont nos sociétés s'en sont emparées de ce sujet, de cette question, de cet élan de vie, et qui est en même temps universel. L'érotisme est une question qui traverse toutes les sociétés. Vous pensez néanmoins qu'il y a une manière très culturelle, très propre à chaque culture de vivre son érotisme. Le vôtre est par exemple fondamentalement italien.
Non, oui, bon, je ne crois pas qu'il y ait grande différence entre les pays européens, mais si on sort de l'Europe, bien sûr qu'on trouve beaucoup de différences. Si on va dans le Moyen-Orient, pour exemple, et bien sûr que la représentation de l'érotisme, c'est tout à fait différent. Donc, l'érotisme, les concepts de pudeur, etc., s'est changé beaucoup dans le cours des temps et ils changent beaucoup géographiquement de pays à l'autre. Je ne crois pas beaucoup en Europe, mais quand même, il y a quand même, oui, il y a des petites différences entre l'érotisme en France, en Italie, en Espagne, oui, c'est vrai, ça, en Angleterre. Il y a juste de petites différences. Oui. Et, pour exemple, les femmes françaises, parisiennes en particulier, sont connues dans le monde entier pour un certain chose comme ça. Il y a quelque chose de différent. Et ça, c'est vrai. Mais même bon, en Italie, on est plus passionnel, peut-être plus expansif. On montre plus les sentiments, etc. Mais quand même, oui, les concepts d'érotisme, les changements dans l'érotisme, c'est surtout entre nous et les pays de Moyen-Orient, mais aussi de l'Extrême-Orient. Il y a de grandes différences dans la façon d'entendre l'érotisme.
Alors, en attendant que vous veniez nous voir une fois en France pour nous dire quelle est cette chose qui distinguerait la française de l'italienne, j'aimerais bien savoir, Milo Manara, quand même, en termes d'érotisme, quelles sont, vous, les représentations dans l'histoire de la peinture, dans l'histoire du dessin, dans l'histoire de l'art qui vous ont le plus marqué?
Ah, il y a beaucoup de peintres qui ont peigné beaucoup de l'érotisme. Pour les peintres plus proches de nous, Klimt ou Chile, par exemple, mais aussi Manet, comme on peut regarder le dessin sur l'herbe de Manet sans voir vraiment un choc érotique. Bon, bah oui, Courbet, mais Courbet, ce n'est pas vraiment érotique, c'est plutôt scandaleuse comme ça, mais pas à niveau érotique, mais plutôt à niveau philosophique. Parce que si on considère l'origine du monde, pas Dieu, mais la femme, bien sûr que c'est une question philosophique plutôt qu'érotique. Mais quand même, il y a beaucoup de peintres. Mais aussi dans la Renaissance, par exemple, Botticelli, c'était vraiment quelqu'un de très, très érotique. Mais aussi, toute la classicité grecque, Praxitèle, par exemple, c'était vraiment l'érotisme personnifié qui devient marbre. Donc, l'érotisme, c'est toujours chanté dans l'histoire de l'humanité. D'une façon différente entre les cultures, mais quand même, c'est toujours été à la base de toute notre civilisation. Même si on regarde les autres formes d'art, comme la littérature, la musique, etc., il y a toujours beaucoup d'érotisme dans toutes les manifestations artistiques et culturelles de l'homme.
C'est étonnant quand même que les premiers noms que vous citiez soient ceux de Klimt ou Schiele, dont les femmes sont quand même très différentes des vôtres. Et effectivement, on vous rapprocherait plutôt de Botticelli sur les courbes, les formes que vous pouvez dessiner. France Culture, on est avec le dessinateur et scénariste italien Milo Manara. Et quel plaisir pour ouvrir cette semaine. On va faire un petit détour par l'actualité musicale et écouter le printemps arriver avec Mathieu Chédid.
Du temps de nos confinements, j'étais triste et hagard, ne sachant plus vraiment si les jours reviendraient des grands rires et du vent. Tu m'as dit doucement qu'on avait en deux temps toutes les solutions à nos questionnements.
En France aussi, composé et enregistré par Mathieu Chédid pendant le confinement, Croit au printemps, comme croire et croître, renaître et grandir, un single inédit dont les droits de cette chanson sont destinés au Secours populaire, paru chez Wagram Musique. Avec notre invité, le dessinateur et scénariste italien Milo Manara. À Paris, une exposition de vos dessins avec ceux de l'ami Hugo Pratt vient de s'achever. L'enfant de Rimini, le père de Corto Maltese, est décédé en 95. Ensemble, vous aviez signé notamment L'été indien et El Gaucho. On parlait sensualité, érotisme, ce que confirme Hugo Pratt à travers les initiales, et cette histoire est folle, de son héros, Corto Maltese.
Les initiales de Corto Maltese, il y a un C et un M. Un C pour être culotte et toutes les dérivations de la culotte, et la M, c'est quelque chose qui en vénitien veut dire mona, que c'est autrefois disons, la femme ici. Hein. Alors c'est culotte femme, dans le nom, l'initiale de Corto Maltese. Alors ça me paraît que c'est pas un type, disons, à dehors de cette affaire érotique, c'est même dans son propre nom, les initiales sont culotte et mona. Moi j'aime bien les femmes. J'ai rêvé avec les femmes, j'ai vécu avec les femmes, et j'ai eu des situations avec les femmes, et aujourd'hui, presque à 60 ans, 58 comme j'ai, je rêve encore avec les femmes.
Voilà, Milo Manara, on ne regardera plus jamais de la même manière Corto Maltese. Vous connaissiez cette histoire du C et du M, des initiales du héros de Hugo Pratt, votre ami?
Oui, c'est une émotion vraiment très très forte d'écouter la voix de Hugo Pratt. Oui, mais en plus, je suis vénitien aussi, donc je comprends bien le mot « mona », qui dans tout le reste d'Italie, c'est presque incompréhensible. Hein, mais en Venise, c'est quand même très évocatif, voilà.
Chez Glénat, apparu il y a quelques mois, Milo Manara, une rétrospective, un gros livre des 50 ans de votre carrière comme dessinateur et comme scénariste. Un livre magnifique qui montre aussi des images qu'on connaît moins de vous, des couvertures d'albums, des dessins réalisés plus rapidement à vos débuts. Un assemblage vraiment de tout ce que vous avez pu réaliser qui montre votre palette. Son titre, Sublimer le réel. Est-ce que vous diriez, Milo Manara, que c'est ça le rôle ou la responsabilité, entre guillemets, du dessinateur, sublimer le réel?
Aussi, c'est une des responsabilités. Ce n'est pas la seule, bien sûr. Il y a quand même des grands artistes qui ne subliment rien. Et plutôt, ils recherchent de dramatiser la réalité. Mais oui, je crois... C'est le fondement de tout, la classicité, soit grecque, soit aussi de la Renaissance, de sublimer le réel. C'est la philosophie platonique. Je m'excuse pour mon français, c'est vraiment pénible. Mais j'aurais besoin d'une semaine d'acclimatation en France avant de commencer à parler d'une façon compréhensible. Quand même, oui, c'est Platon qui a toujours déclaré que l'art, il avait le rôle de sublimer, de représenter les mondes de super-uranio, les mondes des idées et de la perfection. Donc, oui. Et en réalité, on a toujours rapproché à Caravage de ne jamais sublimer la réalité. Caravage, il a eu un moment un grand moment qui a duré beaucoup d'années, de oscurantisme, parce qu'il était... retenu un peintre qui ne sublimait pas la réalité, alors que Raphaël, Michel-Ange, etc., c'était vraiment de grands sublimateurs de la réalité. Moi, bon, je suis un dessinateur de bande dessinée, donc je peux sublimer juste la bande dessinée.
Merci beaucoup à vous, Milo Manara. Le Caravage, c'est aussi une série que vous aviez entamée chez Glénat, édition intégrale en noir et blanc. Le Caravage, elle est parue l'an passé. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que tous ces dessins, c'est une vingtaine de tirages qui ont été réalisés durant le confinement et la crise du coronavirus, publiés d'abord sur Instagram, vont être mis aux enchères, mis en vente à partir du 9 juin jusqu'au 24 juin, et que tous les bénéfices de la vente seront reversés à des hôpitaux. Un grand merci à vous.